La Banque Nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique.
Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom.
Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC, que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de Lamine B, derrière la vitre de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire illustrer l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission fil rouge spéciale IA à l'occasion de la journée de la radio, chapeautée par nos chroniqueurs Hatem Hussini et Hind Benranem, avec en guise d'invité le professeur Ahmed Dessoum, professeur à l'École Nationale Supérieure d'Intelligence Artificielle. À ses côtés, monsieur Enis Ababsia, fondateur de Zone, expert en digital, monsieur Enis Hatoum, économiste formateur international, et enfin, et non des moindres, monsieur Mohamed Lamine Moul Khelwa, directeur indemnisation chez GAM Assurance. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Et ce morceau est une exclusivité que nous a envoyé l'un des plus grands musiciens algériens de tous les temps, j'ose le dire, il s'agit de Sid Ali Arak. Un grand, grand monsieur, merci beaucoup pour cette amitié et pour cet honneur.
He can feel anymore, his heart is dead. The truth is made of lies, all is over now. The warmth makes him cold, the sun darkens days. The sight of hope is fading away from me. This bleeding heart of mine yearning for life. The tears of my cheek below my face. Bleeding heart of mine is yearning for life. I see the little child with arms wide open, hoping someone would hold him tight. I try to walk the days with your tears of goodbye. I can watch him as he disappears, 'cause I'm that child. This bleeding heart of mine is yearning for love. Frozen tears on my cheeks, burning my face. This bleeding heart of mine is yearning.
We like Mediatik.
Et voilà, j'espère que ça va faire plaisir à notre ami Sid qui nous écoute religieusement de Finlande. Allez, on s'intéresse tout de suite à la thématique du jour, thématique spéciale journée internationale de la radio. C'est notre marotte non médiatique, il s'agit d'intelligence artificielle. Hatem Husseini, tu adores ce sujet.
Bonjour Reda, bonjour cher auditeur. Donc, vu qu'aujourd'hui c'est la journée donc, mondiale avec la thématique sur l'intelligence artificielle, on a avec nous donc, plusieurs personnes qui activent un petit peu, qui ont tous un avis sur l'intelligence artificielle.
À commencer par le professeur Ahmed Gessoum, qui est professeur à l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, un habitué de l'émission.
Voilà.
Merci.
Professeur, et aussi donc on va parler un peu de l'impact de l'IA par rapport à l'économie, par rapport à... On a avec nous les gens de l'assurance.
Absolument. Monsieur Mohamed Lamine Moul Khalwa, j'ai bien prononcé.
Effectivement, oui.
Qui est directeur indemnisation chez un grand assureur algérien.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs d'Alger 3.
Avec plaisir, on a aussi une pointure en matière d'économie qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée. Il s'appelle Monsieur Anis Hatoum. Il est à la fois économiste, formateur international, mais pas que.
Oui, bonjour chers auditeurs, bonjour Reda, bonjour toute l'équipe. Donc ravi d'être parmi vous.
C'est tout à fait réciproque. Et enfin, et non des moindres, la légende de Blida. Le fantôme de Hajar al-Qutb en personne, le fondateur de Zone et accessoirement expert en intelligence artificielle, il s'agit de monsieur Anis Abeb Sia. À qui on peut donner un micro?
Merci Reda.
Évidemment, Hind Ben Radem, sans qui l'émission ne serait pas ce qu'elle est.
Bonsoir. Merci Reda.
Très bien. Allez, on va commencer par quelques chiffres si vous le permettez. Selon un rapport de 2025 des Nations Unies, l'intelligence artificielle pourrait affecter jusqu'à, messieurs, dames, 40% des emplois dans le monde au cours de la prochaine décennie, ce qui transformerait profondément nos façons de travailler, d'apprendre et d'interagir. Dans le même temps, une enquête mondiale pilotée par l'UNICEF cette fois-ci a recueilli les réponses de plus de 330 000 jeunes de 181 pays. Que dit cette enquête ? Elle dit que de nombreux adolescents se sentent encore peu, voire pas du tout, préparés à un avenir professionnel dicté par l'IA. Alors au-delà du marché de l'emploi, cette technologie soulève aussi des dilemmes importants. Comment protéger nos décisions personnelles et nos libertés dans un monde où des algorithmes influencent de plus en plus nos choix? Et surtout, quelle est notre responsabilité collective à nous tous pour éviter que l'IA n'amplifie les inégalités existantes entre pays, générations au niveau de compétences? La question est pour vous, professeur.
Merci Reda Menassel. Bonsoir tout le monde et toutes les auditrices et les auditeurs d'AG Chaîne 3. Les questions sont pour moi. Il y a pas mal de...
On va essayer de vous décharger de quelques questions vu le nombre des invités.
Il y a pas mal de points très importants, effectivement. Un, c'est ce qui est connu actuellement, et il y a eu une étude très récente d'IBM qui dit que il va y avoir un remplacement des emplois.
Ah, ils ont utilisé le mot remplacement.
Remplacement. Les compétences, les personnes qui maîtriseront l'IA seront bien plus effectives et présentes que les personnes qui ne maîtriseront pas l'IA. Donc, d'où ce que vous avez mentionné comme une statistique, 300 000 jeunes qui ont été pour lesquels un sondage a été fait. Effectivement, là, il s'agit de penser très sérieusement et très rapidement à la mise à niveau formation non seulement universitaire, mais pré-universitaire. Donc, il faut vraiment un effort grandiose, colossal, à tous les niveaux.
On va en parler aussi avec Anis Hatoum, voilà.
Pour faire comprendre ce qu'est l'IA, pour faire non seulement comprendre ce qu'est l'IA, mais de donner les ABC de l'IA, introduire même la programmation, l'utilisation d'outils IA, etc., dès le lycée, même le moyen. Et je crois que c'est en train d'être étudié en Algérie de façon très, très sérieuse. Donc là, il y a un travail important à faire. Il y a un travail aussi à faire au niveau des entreprises.
D'accord.
Il y a tout un travail de ce qui est appelé en anglais « upscaling and rescaling ». Donc, il s'agit de mise à niveau et parfois de reconversion des compétences. Il faut introduire l'IA. Si on fait de la mécanique, si on fait de l'agriculture, si on fait de la santé, si on fait n'importe quel, si on est dans n'importe quel secteur économique, il s'agit de d'outiller ces utilisateurs-là. Nous n'avons plus le droit de les laisser perdre leur job, leur existence d'ici 5 ans ou peu. Donc, il y a beaucoup de questions.
Pas se résigner à la fatalité, en fait.
Absolument. Mais il y a beaucoup de travail. Il faut tout un programme pour en ce sens-là.
Alice, alors, que t'inspire ces chiffres, justement, qui font froid dans le dos aussi. Hein.
Qui font très froid dans le dos. Je me permets de raconter une anecdote très rapidement, qui est dans la continuité de ce que disait le professeur Guissom. Quand on avait commencé notre aventure entrepreneuriale il y a 10 ans, en santé, chez nous, en tant que ce qu'on appelle digital native, ça veut dire j'ai une nouvelle génération très à l'aise avec les réseaux sociaux, etc.
Qui ont grandi avec.
On a grandi avec ça. Donc, en santé, une sorte d'avantage compétitif naturel par rapport à d'autres concurrents qui étaient là depuis 10 ans, 20 ans avant nous. Et donc, cette aisance, familiarité naturelle avec
ce edge.
Avec ce edge. On parlait de digital à l'époque, c'était très tendance. Et on est très content d'avoir cet avantage, ce pas en avant. Aujourd'hui, une discussion que j'ai avec mes collaborateurs, c'est qu'on commence à ressentir ce désavantage par rapport à des générations qui ont compris comment toute cette vague de nouveaux outils IA est en train d'être adoptée partout à travers le monde, est en train d'être exploitée aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer à mes équipes, c'est que on a intérêt à nous auto-former, à nous déformer et à nous reformer sur l'utilisation et la maîtrise des nouveaux outils si on n'a pas envie que ce qui est arrivé à nos concurrents il y a 10-20 ans
devienne obsolète.
Nous arrive. Exactement. Et on commence à le devenir.
Mais cette crainte, pardon, Annie, se traduit comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'est-ce qui t'interpelle ?
Alors, exemple très pratique. Aujourd'hui, on a essayé d'imposer cette formation sur les outils IA à nos équipes. Et aujourd'hui, exemple, on arrive à faire produire une vidéo promotionnelle pour un client en moins de 24 heures avec un seul élément. C'est-à-dire un seul artiste bien formé sur les outils arrive à produire ce qu'on faisait avant avec des équipes de 4 à 6 personnes sur 2 semaines.
Carrément.
Ça veut dire que
avec le même rendu, la même qualité.
Je dirais peut-être mieux, parce que des fois, même l'IA nous permet d'upscaler la qualité de certains rendus visuels qui étaient plus ou moins moyens. Donc, on arrive à faire sortir, franchement, des résultats qui sont à condition. Et pour l'instant, ça ne remplace pas automatiquement à 100% les personnes, mais on arrive à faire beaucoup mieux, avec beaucoup moins de moyens et beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un avantage compétitif. Si on ne le maîtrise pas, on va commencer à voir d'autres concurrents le proposer des produits à beaucoup moins cher, plus rapidement. Et donc, on a intérêt à être à jour sur ça.
Et la question que je pose à chaque fois, après on va switcher vers nos amis des assurances, quid de l'uniformisation du contenu ? Si tout le monde utilise les mêmes outils, avec souvent les mêmes prompts, en direction du même public, est-ce qu'on risque pas d'avoir tout simplement les mêmes publicités, les mêmes vidéos, que tout le monde copie tout le monde en fait ?
Complètement. Alors, moi, ce qui faisait à la base mon intérêt sur les outils IA, c'est que par défaut, moi, je ne suis pas du tout de formation informatique, marketing.
Je sais que tu rêvais d'écrire des livres.
J'en rêve toujours. C'est ma formation de base. Donc moi, ma formation de base, ma compétence de base, c'est l'écriture. Et donc, cet exercice de prompting et de discussion avec l'outil IA, j'ai toujours trouvé fascinant. Je continue à le trouver fascinant. Et je continue à croire que peut-être la compétence qui restera la compétence peut-être la plus valuable, c'est cette capacité à avoir une sorte de singularité dans les idées et de savoir les exprimer et les poser. Après, on est naturellement face à des modèles de langage qui sont des modèles statistiques et donc on a beau être créatif, on se heurte à un moment donné à une sorte d'uniformité comme tu le disais.
Et ce sont peut-être les limites de l'IA.
Ce sont peut-être les limites de l'IA et peut-être qu'on peut en reparler avec le professeur après, mais il y a d'autres formes de limites dont on commence à entendre parler. C'est le fait que tous ces modèles d'IA à travers le monde consomment une quantité tellement astronomique d'énergie. Donc, on commence à se demander est-ce que c'est vraiment sustainable, est-ce que c'est tenable sur... parce que les modèles deviennent de plus en plus...
Il y a une étude récente de l'Union européenne qui parle d'un tiers de la production énergétique de l'industrie.
Tout à fait.
Tout à fait.
C'est impressionnant.
Effrayant, complètement. Et donc, est-ce que ce n'est pas une bulle, en fin de compte? Est-ce qu'on devrait vraiment trader, sacrifier nos compétences de base, nos compétences innées, vers des compétences basées uniquement sur l'IA?
Mais maintenant, justement, emporté par cette facilité qu'apporte l'IA, maintenant c'est devenu pluridisciplinaire, tous les secteurs s'en servent. L'Algérie aujourd'hui se met à jour. D'ailleurs, moi j'ai envie tout de suite de passer à la nomination de la gamme assurance lors de la compétition Intelligent Insurer Awards, où vous avez été retenu donc sur 40 candidatures pratiquement. Vous étiez parmi les 12 premiers.
Félicitations.
Et je vous félicite pour ça. Est-ce qu'on peut avoir davantage de détails?
Surtout, est-ce qu'on peut avoir le gâteau?
Donc, le gâteau pour l'or, Inch'Allah. Donc, pour faire simple et y aller vite, donc on a présenté un dossier où on a mis en évidence tout ce qu'on avait accompli durant 2 à 3 ans. Donc on a commencé par digitaliser, par numériser. Par la suite, on devait utiliser cette donnée parce que, pour être sincère, avoir un modèle de IA réussi, c'est qu'il faut avoir une donnée fiable.
Mais est-ce que 3 années, ça suffit?
Ça nous a suffi pour mettre en prod notre modèle IA. Mm-hmm. Donc on l'a mis, il est toujours en phase test, il est toujours en phase learning. Donc on a des résultats, on va dire, probants et satisfaisants. Donc on est en train toujours de...
Et vous le nourrissez comment?
Voilà, donc on nourrit...
Parle notamment de la loi, de la fameuse loi de protection des données, 18, etc.
Oui,
voilà.
La 1807, donc on a nos propres données, mm-hmm. et on a réussi à entraîner les modèles avec nos propres données. Donc on n'a pas été chercher des données ailleurs. La gamme existe depuis 2001, donc depuis 2001 on a réussi...
C'est-à-dire vos données, les données des souscripteurs?
Les données des souscripteurs.
Anonymisées, rassurez-moi.
Et des sinistres aussi.
Voilà, et des sinistres, mais l'anonymat est toujours
présent. Très bien.
C'est normal. Mais donc c'est ça qui nous a permis de mettre en place notre modèle IA. Pour être bref, donc on a vu parce que la gamme assurance, elle a été acquise par un nouveau propriétaire. Donc on a cherché réellement, on a pratiquement décortiqué nos process, on a essayé de voir là où ça coince, là où ça met.
Vous êtes auto-audité, en fait.
Voilà, on s'est auto-audité et on a pratiquement étudié les SLA, on a étudié les process point par point. Et là où on trouvait des couacs, où il y avait des prolongements de délai, donc par exemple pour l'expertise, par exemple les expertises des véhicules, on a été vers une APIisation avec un de nos partenaires. D'accord. Expertise. Pour tout ce qui est automatisation, donc on a sollicité, ou là on a fait appel à la RPA, c'est le robotic process.
Aujourd'hui, on ressent ces facilitations.
Justement, donc maintenant, quand on voit, et par exemple quand on fait des statistiques ou là des sondages, on voit que le taux de satisfaction client il est important. On a réussi, grâce à ces outils, de pratiquement avoir une cadence de règlement plus de 20 à 25%. Donc, sincèrement, c'est encourageant. On est au début, certes, mais...
C'est un long process.
C'est un long process, mais pratiquement, quand on voit, pratiquement, on est à 60 à 70% d'accomplissement sur cette...
Et par rapport, justement, ce qu'on sait dans la littérature, c'est qu'on utilise beaucoup dans les assurances l'IA pour les fraudes, pour éviter les fraudes, oui. Pour définir les tarifs, donc la tarification. Est-ce que vous utilisez ces...
Justement, le modèle, moi j'aime pas le mot fraude, parce que nous, l'IA, elle a été mise en place justement pour faciliter le règlement des assurés.
Des litiges.
Des litiges, voilà. Enfin, des assurés.
On n'est pas encore
au litige.
On est encore copains.
Voilà, on est encore copains. Donc, excellent. C'est ça. Donc, pratiquement, un sinistre en 2021, par exemple, prenez dans les 27 jours pour qu'il puisse être indemnisé. Actuellement, je suis fier de dire qu'on a réglé des sinistres le jour même.
Ah, ben grâce, c'est voilà. Bon, ça.
Donc, c'est pour ça que c'est un outil je parle sous le contrôle de M. Gussoum, déjà l'IA, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc elle nous aide. On ne va pas, contrairement à ce que les gens disent, qu'on va éliminer l'humain. Au contraire, l'humain, on le garde toujours, on le préserve toujours.
C'est un gain de productivité.
Voilà. L'humain, maintenant, on veut qu'il se focalise sur les sinistres importants, par exemple, mais tout ce qui est inférieur, par exemple, à 100 000 dinars, je n'ai pas besoin qu'un humain voit ça. C'est l'IA qui va faire ça.
Sauf que se pose évidemment, pas pour votre assurance à vous, mais de manière générale pour votre secteur d'activité, les problèmes éthiques. C'est-à-dire, est-ce que l'intelligence artificielle, qui a accès à des données de santé, parfois très très sensibles, parfois très personnelles, ne risque pas de prendre des décisions, j'allais dire, purement logiques ? Sans le contrôle humain, sans l'empathie, sans la contextualisation, qui fait aussi partie de votre travail d'assureur.
Effectivement, oui. Bon, pour les cas...
C'est-à-dire, moi, maintenant, si c'était l'IA qui devait gérer mon cas, je ne serais pas solvable. Voilà, je n'aurais jamais ma mutuelle.
Non, justement, donc je dois juste préciser un truc. Notre compagnie, elle est spécialisée dans les assurances dommages. Donc,
d'accord.
Donc, on ne traite pas les dossiers santé.
Mais je vous ai posé la question de manière générale, oui, par rapport au secteur
certes,
de l'assurance.
Certes, effectivement, oui. Donc, par exemple, nous, actuellement, le modèle donne une décision. Et cette décision, elle est toujours validée par un humain. On est toujours en phase d'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de régler, de faire baisser un coefficient, de faire augmenter un autre, pour qu'on puisse avoir vraiment des résultats qui se rapprochent le plus en plus du réel.
Hatem, on va parler de l'aspect économique cette fois.
Et justement, dans les aspects économiques, on sait que maintenant, surtout les grandes entreprises américaines qui un petit peu mettent la main sur les technologies, les GAFA et tout ce qui s'en suit, sont en train de mettre à peu près 700 milliards de dollars pour justement développer ces technologies dans l'économie.
Oui.
Et la question, elle se pose dans le sens où on connaît tous ce qu'on appelle la fracture numérique, mm-hmm, entre le Nord et le Sud. Et maintenant, avec tout cet argent qui est mis sur ces nouvelles technologies, est-ce que nous n'allons pas un petit peu reculer ?
Rester sur le côté de la route,
comment peuvent intervenir nos compétences qui sont à l'étranger ou bien qui sont un petit peu en contact avec ces développements technologiques ?
Oui, votre question est très pertinente. En fait, au niveau économique mondial, on va dire que chaque pays essaie de développer sa propre intelligence artificielle. Le professeur Gussoum le sait aussi. Les Américains, effectivement, ont investi plus de 700 milliards de dollars à développer l'économie numérique et notamment l'intelligence artificielle. On connaît tous certaines marques d'intelligence artificielle, je ne vais pas les citer. Il en existe beaucoup. Là, tout à l'heure, je lisais un article, notamment qui concerne l'Europe. L'Europe veut développer sa propre intelligence artificielle. Il y a eu un investissement dans l'entreprise Mistral d'1,2 milliard d'euros, une levée de fonds qui a été faite ces jours-ci, et où les serveurs sont domiciliés donc en Suède. C'est une volonté politique parce que le climat est plus favorable, c'est vert, on connaît l'impact écologique des serveurs au niveau du réchauffement climatique.
Qui sont soumis
notamment
à des cahiers de charges draconiens.
Oui, notamment. Voilà. La question se pose en fait pour les pays du Sud, est-ce qu'on souhaite dépendre d'une intelligence artificielle développée par un pays étranger ? Donc une question de souveraineté peut être soulevée ici. Souveraineté politique, souveraineté économique. Il faut savoir que l'intelligence artificielle dépend uniquement de la data qui en est incorporée en open source. Donc nos chers auditeurs doivent être au courant de ceci aussi, c'est qu'aujourd'hui lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux ou lorsque vous émettez des documents dans l'intelligence artificielle, elles tombent dans le domaine public. Elles sont consultables par n'importe qui. Donc nous avons connu en Europe et puis aux États-Unis des secrets de fabrication dévoilés au grand jour, des procès faits à des employés de certaines entreprises dans le numérique, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, parce que les données sensibles de nouveaux produits étaient tombés dans le domaine public.
Voilà. Pour la formation, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut lancer des programmes de formation tels que ça se fait
hier, j'ai échangé avec le ministère de la formation professionnelle. Donc, je salue les équipes de Nassim Arhab, notamment, et tous les programmes de formation qui vont être mis en place pour justement à ce que notre jeunesse ici en Algérie soit au fait de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Reda l'a dit tout à l'heure aussi, dans certains pays d'Europe et en Amérique, l'intelligence artificielle est introduite à l'école dès le jeune âge. Aujourd'hui, les jeunes de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans utilisent l'intelligence artificielle.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Effectivement, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de l'émission médiatique-Alger-Chin-3 et Inde Benranem se ferait un plaisir de vous répondre personnellement.
Quelle lourde responsabilité.
Voilà, tout à fait. Tu avais d'ailleurs une question à poser.
Non, d'abord, une remarque concernant les budgets colossaux. Oui. On entend parler aux États-Unis et ailleurs dans le monde, des chiffres phénoménaux. Mais en même temps, je me dis c'est relatif parce que l'investissement là-bas est aussi, comprend des chiffres aussi très intéressants.
Oui.
Non, moi, je vais profiter de la présence de l'assureur pour dire aujourd'hui, si j'ai un outil digital ou même IA, est-ce que je peux l'assurer ?
Donc, moi, je pense que dans le domaine des assurances, tout est assurable. Il faut juste qu'on définisse ça avec nos amis actuaires pour qu'on puisse déjà le tarifier. Donc,
c'est-à-dire j'ai une application, un logiciel, j'ai un code, au fait quelque chose de très virtuel. Comment vous allez l'estimer cette police d'assurance ?
Bon, certainement, c'est bon pour qu'on puisse déjà tarifier une police d'assurance ou là. Donc on doit déjà d'ores et déjà y aller vers l'historique. Est-ce qu'il y a eu des sinistres ? Ils ont coûté combien ? Pour qu'on puisse déjà avoir un tarif qui va couvrir l'ensemble du préjudice. Maintenant, comme vous dites là, c'est les assurances à responsabilité civile. Je pense que nous, assureurs, nous allons y penser et proposer un produit comme ça.
Anissa Babsia, vous voulez rebondir ?
En fait, en parlant justement des risques d'assurance, on voit depuis 2026, un tout nouveau concept qui s'appelle CloudBot.
C'est ça.
Oui. Et qui est un agent complètement autonome. Ça veut dire que c'est pour la première fois, on a un assistant IA qui se contente pas seulement de répondre à nos questions, mais à qui on peut donner des accès. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui programme notre agenda, qui a accès à notre carte de crédit, qui fait des achats à notre place.
Et qui c'est un assistant virtuel.
Oui, mais qui a la liberté, par exemple, de voir j'ai raté. Mon anniversaire de mariage avec ma femme, donc il peut prendre la liberté de lui acheter un bouquet.
Le 14 février, c'est ce samedi. Voilà, rappel à nos auditeurs, soyez à la hauteur de la situation. Voilà.
Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, où sont les limites réelles de cet assistant virtuel ? Ça veut dire que s'il prend la décision...
C'est un libre arbitre, si on veut faire de la philosophie.
Complètement. Et donc, comment est-ce que je détermine si je me suis fait arnaquer par mon assistant ? Ou comment est-ce que c'est une erreur ou qui est assurable, qui est l'assuré ? C'est une vraie question. Oui.
C'est une question épistémo-philosophique, effectivement.
Complètement.
Professeur.
Mais là, il y a un problème qui est effectivement posé. À qui incombe la responsabilité d'une erreur de l'IA ? Par exemple, le cas que vous avez posé, Madame Hind, il y a eu une airliner, une compagnie de voyage canadienne, dont le bot avait offert un package à un des clients, une offre, un voyage package, etc., qui était extraordinaire. Et la compagnie a annulé cette offre-là. Et donc, le client, qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a poursuivi
en justice. Voilà. Votre question est très pertinente. Ce sont ces genres d'erreurs, et nous avons nos experts avec nous, aussi. Ce sont ce genre d'erreurs qui sont possibles. Est-ce que c'est le développeur ? Les données, d'où elles sont venues ? Est-ce que c'est l'entreprise qui utilise cela ? Donc, il y a plusieurs parties prenantes. C'est la même chose avec les voitures autonomes. S'il y a un accident qui tue des enfants ou n'importe qui,
Quid de la bourse ? Quand on sait que, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission, il me semble que c'est 50 ou 60% des opérations boursières mondiales qui seraient gérées avec une intelligence artificielle. On condamne qui en cas de crash ? C'est la machine ? C'est le trader ?
C'est le grand problème.
On a la chance d'avoir un économiste avec nous, Anis Hattoum.
Oui, tout à fait.
Qui va en prison ? Est-ce que c'est toi ou la machine ?
Tout à fait. Bon, là...
tout le monde, tu
vois. Il vaut mieux que ce soit la machine.
La question est posée plutôt aux banquiers, hein, banquiers voilà. Assureurs aussi. Donc effectivement, on rentre dans un flou artistique concernant ces questions-là d'une défaillance de l'intelligence artificielle dans l'IA. Il faut savoir que tous ces pays du Nord, hein, on va résumer ainsi, qui ont investi des milliards dans l'intelligence artificielle, ça a un but ultime, c'est un retour sur investissement. Donc le retour sur investissement, il sera économique, de la part d'entreprises privées ou publiques qui vont utiliser l'IA pour générer du chiffre d'affaires et pour générer du bénéfice, ce qu'on fait actuellement, hein, docteur Guessoum peut le confirmer aussi. Et de ce fait, il est assez rare de tomber sur des cas de défaillance d'IA, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui privées se limitent à l'utiliser dans des cas où il y aurait une perte. Concernant le domaine boursier, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de précédent sur un crack boursier lié à la défaillance de l'IA et l'utilisation de bots, notamment, ou autres technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais Allahu ya'lam.
Il y a eu quelques cas, c'était pas des crashs, mais il y a eu des histoires de dumping, il y a eu des histoires de, je sais pas quel est le terme financier exact, mais des espèces de millitransactions, de millisecondes, où on augmente la valeur d'une action, après on la fait chuter. C'est déjà arrivé, et l'IA en était responsable.
Oui, tout à fait, l'être humain a sa part à apprendre aussi.
Professeur? Il y avait même un cas aux États-Unis où la technologie IA a synchronisé les loyers des différentes entreprises, agents immobiliers, pour garder le loyer à un certain niveau.
Oui.
Et ce qui a été jugé par l'État, que c'était anti-concurrentiel.
D'accord.
Donc il y a toutes ces choses.
Oui, tout à fait. Et puis la data est aussi introduite derrière par l'être humain. Hein. L'intelligence artificielle se sert uniquement de la data qu'on lui donne. Donc effectivement, dans les modèles prédictifs boursiers, notamment sur les indices boursiers mondiaux, on se base sur de la donnée, sur le passé, sur le présent, qui va donner peut-être ou pas une suite dans l'avenir.
Et tu sais, les dames, à chaque fois, je profite de la présence de nos experts pour poser certaines questions, et ce sont des cas concrets. Hein. Je parle à toi, Anis, banquier et puis assureur. Pourquoi l'investissement dans le digital, qu'il soit IA ou digital classique, pourquoi la banque ne joue pas le jeu avec l'investisseur ? Aujourd'hui, je vais voir un banquier et on a vu des cas, je vais taire le nom de la banque, et qui ne refuse donc d'investir parce que pour eux, c'est flou, c'est un code, c'est du virtuel. Donc, contrairement à un investissement où il y a une assiette, il y a une usine, il y a
du palpable.
Voilà, il y a du palpable. Pourquoi le banquier, notamment en Algérie, n'investit pas ou ne joue pas le jeu ?
Réponse courte, Anis, et ensuite tu auras vers Had.
Oui, la réponse est simple. Un banquier va investir. On aime savoir le retour sur investissement quand on prête de l'argent. Le but d'une banque, c'est de prêter de l'argent afin d'être remboursé avec le cas échéant des intérêts. Donc de ce fait, comme c'est une technologie qui est assez nouvelle, comme les entreprises innovantes, il y a eu des réussites, mais il y a eu beaucoup d'échecs. On peut rappeler un chiffre, 30% des start-up au bout de 2 ans restent en vie. Et donc d'autres industries, c'est autre chose, mais le banquier aime bien investir dans ce qu'il connaît, dans ce qui a du recul afin de pouvoir rembourser l'emprunt qui a été fait auprès de cette entreprise privée ou un État. Donc les milliards aujourd'hui qui sont levés par les grandes entreprises qui développent l'intelligence artificielle.
C'est la crème de la bulle.
Oui, elles sont faites auprès d'investisseurs privés, business angels, des fonds européens, par exemple, de la Banque Centrale Européenne, etc. Aux États-Unis aussi, la Federal Reserve a investi aussi beaucoup dans l'économie numérique. Donc voilà pour répondre à ta question.
Hatem Hussein.
Je venais maintenant aborder la question de l'éthique dans l'IA. Et là, dernièrement, la Chine et les USA n'ont pas pu signer un document ou une déclaration, même si elle n'est pas contraignante, sur le contrôle humain des armes IA, c'est-à-dire dans le militaire. C'est-à-dire que l'IA, on peut la laisser toute seule.
C'est ce qui est appelé LAWS en anglais, Lethal Automatic Weapon System. Donc, ce sont des drones autonomes, etc.
Est-ce que ce n'est pas un signal qui veut dire que la place de l'éthique n'est pas encore
Professeur, merci. Puis j'aimerais avoir l'avis d'Alice.
Les problèmes liés à l'éthique sont là et ils sont réels et concrets. Par contre, il y a des législations, il y a des textes un peu partout. Hein, l'Union européenne, European Action Act, aux États-Unis, au Brésil,
en Russie,
au Canada, en Chine, pas mal.
Dernièrement, en Corée du Sud aussi.
En Corée du Sud, etc. Donc, tout le monde... L'UNESCO avait aussi une charte. D'ailleurs, j'avais participé au débat de l'UNESCO, représentant l'Algérie, sur l'aspect éthique.
Pas mal.
Et la question, il y avait un grand débat. Je dirais presque un combat pendant les discussions entre les pays développés et le reste du monde. Parce que nous, on essayait de défendre le citoyen, le protéger au maximum, etc. Oui. Et on ressentait qu'il y avait une espèce de protection des entreprises de leur côté. Donc il fallait pas trop tuer l'innovation comme on l'entend aujourd'hui. Mmh. Donc il y a tout un problème par rapport à l'éthique. Et la Chine, États-Unis en est un exemple.
Micro-pause, on revient juste après.
La Banque Nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique.
Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom.
...18h42 sur les ondes de Radio Haïtien 3. Nous continuons notre passionnante conversation à l'occasion de la Journée internationale de la radio. Nous parlons d'intelligence artificielle. Notre fil rouge, Anis Abebsi, à ta réponse au professeur Guesson.
Plutôt, c'est une continuité. Aujourd'hui, bon, l'Union européenne a toujours été championne dans l'acte de régulation. Ça veut dire que les autres leaders avancent, mais l'Union européenne est toujours là. Essayer de normer, de poser...
Quand on plonge dans l'inconnu...
Oui, mais ce que disait justement le professeur Guesson, c'est que vous avez en face deux États leaders qui ont investi des sommes astronomiques colossales pour avancer sur un sujet. Puis vous avez une autre partie du monde qui dit « Attendez, on va voir, on ne sait pas ». Donc c'est tout à fait normal d'avoir en face... des interlocuteurs qui disent oui, mais comme disait notre ami tout à l'heure, moi j'en ai mis trop mon argent et je m'attends à un retour sur investissement. Et donc après, il y a toujours des lanceurs d'alerte, il y a toujours des réflexions qu'on peut avoir, mais je pense que comme tout autre sujet, c'est quasiment impossible de dire mettons le sujet en pause en attendant de définir
une sorte de moratoire qu'avait proposé Elon Musk.
Oui,
je n'ai jamais vu le jour d'ailleurs.
Je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce sujet, c'est pas une finalité. Je pense que des débats sur la partie éthique, philosophique, il y en a, il y en aura toujours.
Non, mais c'est jouable là. Je prends toujours l'exemple du clonage par exemple, oui. Où il y a eu un consensus scientifique. Des scientifiques se sont réunis et les gens ont dit bon, on va pas dans cette direction. Donc c'est tout à fait faisable si l'humanité arrive à un certain degré de maturité.
Ils ont commencé à dire cela il y a 20 ans en arrière, mais ça continue de...
Oui. D'ailleurs, je pense qu'on est dans cette lignée de régulariser tout et tout. Pourquoi ? Parce que, exemple, Elon Musk, maintenant, il est en train de dire « Je vais essayer de mettre des serveurs dans l'espace. » À votre avis, qu'est-ce qui est intéressant de mettre des serveurs dans l'espace ?
C'est justement la température déjà.
Mais il y a aussi la réglementation. Il n'est pas régi à la réglementation de
Ah, mais l'espace est très régi par des
n'est pas
des
encore
très sévères aussi. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Mais je peux ajouter à cela, c'est que on sait depuis la venue du nouveau président américain, le cap a complètement changé au niveau des États-Unis. Là, il s'agit de libérer l'initiative, libérer les entreprises, IA en particulier, contrairement à ce que l'Europe fait. Je ne pense pas que c'est une hésitation européenne, c'est plutôt une espèce de
prudence.
D'interrogation. Ils savent ce qu'ils veulent. Bon, dernièrement, il y a eu des déclarations du président français, entre autres, etc., disant, bon, libérant un petit peu, il ne faut pas trop... je suis tout à fait d'accord. Mais ils sont conscients qu'il ne faut pas complètement geler l'initiative en IA, Par contre, les États-Unis, le président américain l'a dit clairement, il faut complètement libérer
l'initiative. Oui, oui. Est-ce que parce que lui, il a une personnalité extravagante ou parce que réellement, c'est la décision qu'il faut prendre?
Non, c'est une vision libéraliste de l'économie.
Qui est la sienne depuis toujours.
Saxonne, américaine, oui.
Maintenant, ce n'est pas qu'un produit lambda. Et l'impact de cette technologie, on le voit, ça nous touche tous, hein, quel que soit notre domaine d'activité, notre métier, etc. D'où les réserves, d'où les questions philosophiques qu'on est en droit et en devoir surtout de se poser. Rind,
je reviens moi à l'assurance.
Il reste 12 minutes d'émission.
Voilà. Est-ce que vous êtes les seuls aujourd'hui où vous avancez réellement sur le dossier IA dans les compagnies d'assurance ou vos confrères font tout autant pour le citoyen algérien?
Bon, à ma connaissance, donc, pratiquement, on est les seuls à...
Ah non, il y a une autre assurance. Ah, non, on ne citera pas.
Non, vous êtes deux. Oui, on a mis en lumière l'IA et on commence à récolter les fruits de l'IA. Pour les autres, pour les confrères, sincèrement, je saurais vous le dire s'ils ont mis une IA en application.
Est-ce que votre stratégie sera un prototype à suivre?
Certainement. Donc, oui. Nous, on a déjà dit qu'on pouvait partager avec nos confrères. Mm-hmm. Donc,
très bien,
bien sûr.
On parlait tout à l'heure et on ne s'est pas arrêté dessus sur l'éventualité de la création d'une intelligence artificielle 100% algérienne. Alors, on a fait des émissions autour de ça avec des experts qui étaient pour, d'autres qui étaient un peu réticents, d'autres voyaient le côté gargantuesque du projet qui serait un gouffre financier parce qu'encore une fois, créer une intelligence artificielle, c'est pas mettre des prompts ou la customiser ChatGPT pour répondre à nos besoins. C'est vraiment from scratch, à partir de rien.
Exactement.
Et ça demande des ressources, du temps que l'Algérie n'a pas forcément ou n'a peut-être pas envie d'aller dans cette direction. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat autour de la table? Je commence par le professeur, je switch vers Ennis, puis l'autre Ennis avec deux SE, et enfin on terminera par les assurances.
Ok, il faut réfléchir en termes de souveraineté nationale.
Oui.
Mon collègue en parlait tout à l'heure. Et je voulais justement rebondir parce qu'il y a des efforts et il faut le dire. Il y a des efforts qui sont consentis. En termes de data center, on sait qu'il y a au moins 5 data centers qui ont été lancés, dont un à Oran, basé IA, le projet à Constantine, celui de Mohamedia, Blida, etc. Mais, comme vous le dites, la création d'une IA, j'entends par là une espèce de ce qui est appelé large language model, donc les modèles, les grands modèles de langage comme ChatGPT, Gemini et
des autres. ZGPT, oui. Voilà.
Voilà, des ZGPT.
Je prends 10% sur le nom, hein, voilà, si j'avais quelqu'un.
Mais c'est coûteux. L'Arabie Saoudite l'a fait,
oui.
Avec Allem. Le Qatar l'a fait avec Fanar et d'autres pays. Qui ont développé, hein, de notre région, qui ont développé des LLM. C'est coûteux, mais ça leur donne la liberté de contrôler les données. Hein, donc, si on a des data centers et le dispositif national maintenant de la gouvernance des données qui a été décidé il y a 2 jours ou là, tout ça, c'est extrêmement important. Mais je pense que quand il s'agit d'une stratégie nationale, quand il s'agit d'une souveraineté nationale, quand il s'agit d'une vision nationale, je pense que mettre quelques milliards de dollars si nécessaire, je ne pense pas que ce sera un coup faramineux.
Anis, qu'en penses-tu?
C'est clair que la question... L'Algérie a fait le choix de la souveraineté, de l'autonomie, de l'indépendance. Après, en même temps, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Est-ce qu'on parle de quelques milliards de dollars? Ou est-ce qu'on parle de centaines de milliards de dollars ou de trillions de dollars?
Pour quelle retombée économique?
Et pas que économique, c'est comme disait le professeur, oui, c'est une question de souveraineté, et donc l'impact sera transversal, même en matière d'éducation, en matière de gouvernance. C'est clair, mais la question, est-ce qu'on le veut? Bien sûr qu'on le veut. Est-ce qu'on a les moyens de construire quelque chose de sérieux, tout seul? La réponse n'est pas à mon niveau, mais je donne un exemple simple. C'est que la France, elle a un modèle, elle a un champion national qui est Mistral.
Oui.
Mais même si la France essaye de le présenter comme une sorte d'acteur sérieux,
oui, de solution européenne
sur l'échiquier mondial réel entre les
infinitésimales,
entre les modèles open source chinois qui apparaissent chaque semaine et les gargantua aux États-Unis, Mistral, ça reste un très 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 petits joueurs, avons-nous les moyens de faire mieux? Peut-être. Encore une fois, c'est la question, elle est au niveau des décideurs. J'imagine qu'il y a d'autres paramètres que nous n'avons pas.
Alors, je vais vous donner...
Anis Hatoum, pour l'aspect économique. Oui, qu'est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ça pour l'Algérie?
Je vais vous donner mon avis en tant qu'économiste et banquier. En fait, cette question-là de souveraineté, elle est très importante. Aujourd'hui, il faut le savoir. Qui a la main aussi pour arrêter de rendre service avec l'IA qui est par exemple utilisée aux États-Unis, un pays avec lequel l'Amérique est en conflit. Il faut se poser aussi cette question. Si demain, toute l'économie est basée sur l'intelligence artificielle, on commence à le voir dans les entreprises privées.
Ça se dessine. Oui.
Ah oui, ça se dessine en optimisation. On vend l'IA aujourd'hui comme une optimisation des ventes pour toute entreprise existante de droit privé. Demain, nous avons un conflit avec un pays étranger détenteur de cette intelligence artificielle. Est-ce qu'en appuyant sur un bouton, on peut priver ce pays de cette ressource qui sera la base de notre modèle économique de demain? Là est la question à pourquoi les États-Unis ont investi 700 milliards? Pourquoi avant-hier, Mistral a pu lever à plus d'un milliard d'euros pour développer une intelligence artificielle européenne? C'est justement pour rester autonome, mais c'est l'économie de demain. Je t'en parlais, Reda, aussi tout à l'heure.
Si c'est un open source qui est installé en local.
Mais le coût de l'installation d'un open source en local, ça demande des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie a les moyens d'investir sur l'intelligence artificielle dans les mêmes dimensions que d'autres pays?
En plus des chantiers que nous avons dans notre secteur.
En plus des beaux chantiers qu'on a dans les secteurs et les priorités de l'État. Demain, on joue effectivement notre autonomie économique qui soulève grandement débat. D'où l'utilité, professeur Guessaume, d'accentuer sur la formation professionnelle, effectivement, faire monter en compétence notre jeunesse sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Professeur, vous lui répondrez à Nesratum.
Voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. J'aimerais juste ajouter que, bon, j'ai dit open source, c'est une possibilité, mais il faut l'infrastructure, effectivement. Par contre, il y a le know-how, il faut maîtriser. Nos étudiants apprennent ce que c'est les transformers, etc., l'architecture. Mais si on ne met pas la main à la pâte, si on ne développe pas cette technologie, on ne pourra pas. Maintenant, les Chinois parlent de spiking brains, une nouvelle technologie pour ne pas faire une force brute dans ce que font les LLM, ChatGPT, etc., mais être plus intelligent dans les calculs qu'ils font. Donc ça économiserait énormément en temps et en énergie. Donc en maîtrisant cette technologie, on peut aller de l'avant et se projeter. Je pense que c'est important.
Et c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup messieurs, dames, d'avoir répondu à l'invitation de Mediatik à l'occasion de cette journée internationale de la radio. Merci beaucoup à Begbegi et Lamine B derrière la vitre d'être toujours fidèle au poste. Quant à toi, qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite.
La Banque Nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. Mediatik vous a été présenté par BNA.
Mediatik, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom.
place we can go. We can get out the know at the disco. We've been waiting for you. All your friends are here too at the disco. There's a place we can go.
Mediatique.